Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Dutin, Kevin Diaz, qui est toujours avec nous, et Walid Acher.
Il est resté en studio, Kevin Diaz.
Il est resté
fidèle. Je lui ai dit, il part pas, Kevin, il reste 45 minutes.
Bien évidemment que je reste.
Puis il s'est rappelé également que ça pige hein, à 2000 euros ce soir. Était fractionné s'il partait à 21h17. Voilà. Nassim est toujours avec nous, supporter de l'OL, parce qu'on parle de Lyon. Est-ce que Lyon peut sauver sa saison en gagnant la Coupe de France? Nassim nous dit non radicalement. Il n'oublie pas les dernières saisons lyonnaises, bien sûr. Tu voulais réagir, Kevin, également.
Bah écoute, tu viens de le dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas être radical. Il y a un moment, je comprends tout à fait la frustration des supporters, hein, Nassim. Je ne la remets pas en question et je n'en doute pas. Mais tu sais, si ton club doit avancer, il va falloir aussi à un moment redresser la barre et remonter la pente, parce que j'entends ce que tu dis, que ça va redonner du crédit à une direction et vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression que vous n'irez nulle part avec ces hommes-là. Mais il y a un moment, c'est les gens qui sont en place. Donc soit tu souhaites pas la réussite de ton club. Ce que je peux entendre, ça peut arriver malheureusement dans certains clubs, mais tu vois, il y a aussi des moments où va falloir voir ce que ça donne. Et je pense que une victoire et par exemple une qualification en Coupe d'Europe ne doit pas empêcher un club et une grande institution comme l'Olympique Lyonnais de se remettre en question. La remise en question, elle est perpétuelle dans le foot, que ce soit sur le terrain pour un joueur, sur le banc pour un entraîneur et dans les bureaux pour des dirigeants. Maintenant, je pense que ce sera toujours mieux de travailler dans un climat où il y a eu quand même un petit peu de réussite et une victoire en Coupe de France ou une remontée au classement pour ensuite permettre cette remise en question. Et c'est là où Textor et les Américains ou ceux qui décident vont être importants, parce que je peux te dire que les Américains, c'est pas parce que tu gagnes une Coupe de France qui vont te signer un chèque en blanc. Ils vont vouloir voir des résultats et à très court terme.
Ah mais ce qui, moi, me dérange, alors bien évidemment, je peux comprendre la frustration des supporters lyonnais, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, dans le discours de banaliser ou snober une coupe quand tu es l'Olympique lyonnais et surtout la Coupe de France, même quand ça allait à peu près bien avec l'Olympique Lyonnais, les années 2014-2015, on demandait à l'Olympique Lyonnais d'être une locomotive dans ces coupes sur le plan national pour aller challenger des équipes comme le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, j'entends, alors que l'Olympique Lyonnais est dans une situation très très compliquée depuis plusieurs années, qu'en vérité, bah, une Coupe de France, Laurent Blanc, il s'en fout. Bah, si vraiment Laurent Blanc s'en fout d'une coupe de France, c'est très très grave. Si les joueurs, la même chose, alors que le seul objectif aujourd'hui qui reste à ce club, c'est ça, c'est-à-dire aller chercher des...
Il n'a pas dit qu'il s'en foutait. Il a dit hier que le chemin le plus court pour vivre une Coupe d'Europe l'an prochain, c'est la Coupe de France.
Je pense que Laurent Blanc s'en fout et que les supporters ne sauteraient pas au plafond. Moi, je pense sincèrement qu'une Coupe de France, il faut quand même la valoriser et dire, si quand tu dis Simon, c'est pas Brest, c'est pas un tel, l'Olympique Lyonnais doit garnir son trophée, sa vitrine, le trophée des coupes
en Allemagne
c'est quand même important. Et puis en plus on spécule d'une chose ce soir, c'est que personne n'y croit ici sur cette table, donc on n'en est pas là bien évidemment, mais si ça arrive, moi je comprends pas le discours. Et ça n'empêche pas Simon, ça n'empêche pas que cette saison là pour l'instant elle est catastrophique, qu'elle va peut-être être terminé dans l'anonymat complet.
Tu connais l'histoire, hein, quand t'as mangé du caviar pendant 7 ans, même si
si vous essayez de me faire dire que la saison lyonnaise, elle sera pas moins ratée avec une Coupe de France que si la gagne.
Mais t'as pas fait ça depuis 2012, Simon.
Je te dis, ça suffira pas. Moi, je suis supporter lyonnais. Ça me suffit pas.
C'est un autre.
Si tu me montes la Coupe de France pour que je regarde ailleurs, ça me suffit pas.
Donc demain, tu gagnes une finale contre Marseille. T'as sorti Lens, t'as sorti le PSG, t'as sorti Lille. Eh ben, c'est un autre. C'est un trophée pour ces jeunes joueurs qui ne leur serviront pas. Et le club,
c'est mieux si tu la gagnes, mais ça suffit pas.
Faut se réveiller. Lyon, faut se réveiller. On n'est plus en 2007 là.
Parce que regarde le budget de Lyon.
Regarde leur entraîneur, leur budget, leur effectif.
On le dit toutes les semaines. C'est à moi mois, tu vas dire Walid Acherchour qui critique l'Olympique Lyonnais toutes les semaines que c'est pas normal de les voir à ce stade-là au classement. Mais il faut pas tout mélanger non plus. Fait sincèrement, on peut pas tout dire de cette manière en expliquant que la Coupe de France, on en a rien à secouer. Arrêtez un peu. Tout à l'heure le PSG, ils en ont rien à secouer de la Coupe de France. Lyon, ils en ont rien à secouer. Et ben bientôt on va dire que Marseille la même chose. Et puis Lens, mais en fait qui va respecter la Coupe de France ici sur ce plateau en fait.
Le PSG, c'était pas exactement le même discours parce qu'ils ont une échéance énorme qui arrive.
Mais quand Lyon... t'es trop haut, la Coupe de France, on s'en fout. T'es trop bas, on s'en fout aussi.
Je suis d'accord. Moi la Coupe de France, de toute façon, pour moi c'est une très très belle compétition. Il faut aller la chercher. Je pensais autrement de la Coupe de la Ligue parce que malheureusement ça faisait un peu trop de compétition à jouer à un moment, mais la Coupe de France, il faut la jouer à fond pour tous les clubs. Et si le Paris Saint-Germain avait un autre effectif, je tiendrais exactement à 100% le même discours, même pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que quand t'es un club comme Lyon, comme Marseille, comme Lille, comme n'importe quel club qui ont des ambitions dans ce championnat, il faut jouer le championnat et il faut aussi jouer la Coupe de France à fond, même si c'est pour moi faire une petite rotation dans ton effectif, ce n'est pas ne pas jouer la Coupe de France à fond.
Non.
Je remercie Nassim. Tu nous écoutes encore depuis quelques minutes, Nassim. Si tu voulais le mot de la fin, c'est maintenant, mon cher Nassim.
Ouais, donc je disais juste deux éléments rapides. Moi, je veux bien ce qu'on nous dit sur le fait de l'encadrement lyonnais. Sauf que ça fait depuis 10 ans. On attend, et qu'au bout d'un moment, il faut que ce soit radical, parce que ça fait depuis 10 ans qu'il y a rien qui change à l'Olympique Lyonnais et que c'est de pire en pire. Et deuxième point, moi, je veux bien qu'on gagne une Coupe de France. Mais comment, Messi, on va la gagner? Parce que il y a rien à Lyon.
Ça, c'est
mort, il n'y a pas Dieu. Oui, mais donc on, dans l'hypothèse que le meilleur moyen de gagner des titres, c'est de bien jouer.
Bien sûr.
Et à Lyon, il n'y a rien pour bien jouer.
On va finir avec Fonseca.
On a commencé
belle
par
transition.
Allez, c'est parti. Merci Nassim. Excellent soir.
Merci Nassim.
Bon match demain. Tu pourras nous rappeler hein, dans l'after. On sera là pour débriefer les matchs de Coupe de France, dont ce Lyon-Lille. Lille, on en parle. C'est l'heure de la vie tranchée de Kevin Diaz.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si, au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible. Elle a séché, c'est terminé.
T'as séché vite, toi.
Hein?
Non.
Je l'aime bien, celle-là.
Mais il y a des punchlines, Kevin. Hein.
Je ne connaissais pas.
Ouais, c'est costaud, ça.
Elle est magnifique, avec la musique de Ghost, hein, vous le savez.
C'était préparé, ça?
Des mimos.
Non, là, c'était du freestyle.
Et la Lune, Mars, tout ça, la VAR, ça, c'était préparé.
Vénus.
Non, pas du tout.
Vénus.
Ah non, mais ça. Après, moi, j'étais un joueur créatif, quand même. Pas de gris-gris, mais créatif.
Bon. Je vois pas le rapport entre tes qualités de créativité sur le terrain et tes punchlines.
Ah, la créativité dans la punchline et sur le terrain.
D'accord.
Vous m'avez perdu là.
Bon, moi aussi. Kevin, le loss de Fonseca mérite d'être récompensé cette saison. Pourquoi?
Bah écoute, parce que déjà on prend beaucoup de plaisir à regarder cette équipe jouer et j'ai encore pris plus de plaisir cet après-midi en lisant l'interview de Paulo Fonseca dans SoFoot.
Incroyable,
qui est tout simplement exceptionnel, où tu passes vraiment un bon moment de foot, t'as l'impression qu'il est à côté de toi en train de te raconter l'interview et voilà, c'est un entraîneur. Moi j'ai aimé, tu sais ce que j'ai, vous savez ce que j'ai aimé, messieurs, j'ai
non.
aimé les scènes de joie après le deuxième but lillois, où les joueurs sont venus sur le banc de touche, Fonseca est sorti de sa zone technique. J'adore faire ça comme entraîneur, même si c'est pas conseillé, mais honnêtement, communier comme ça avec tes joueurs quand ça a été un match difficile où t'as pris un but très rapidement et ils ont forcément, en plus, et il en parle dans l'interview, le traumatisme du match où ils avaient encaissé un but très rapidement face au Paris Saint-Germain et derrière ils avaient un peu sombré, même si je me rappelle bien du match, et je suis d'accord avec lui, c'est vraiment loin d'être leur pire performance cette saison. Et justement, c'est un joueur, c'est une équipe qui insiste, qui a un plan de jeu, qui a un projet, comme adore Gilbert Bribois, qui a un projet de jeu, qui a un plan de jeu, et les joueurs s'y tiennent. Et comme il le dit dans cette interview, je vais faire un petit parallèle dans cet avis, parce que il dit que s'il s'était renié face au Paris Saint-Germain, tout son discours durant la préparation n'aurait pas tenu, parce qu'il préfère que son équipe ait gardé leurs principes, même s'ils ont pris une valise, parce que ça leur a servi dans ce processus pour le reste de la saison. Pareil, il parle aussi du fait de gagner ou pas les matchs. Il parle des entraîneurs résultatistes qui te disent « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps de faire du beau jeu parce que je dois avoir des résultats. » Et c'est toujours le même discours, et on le connaît très bien ici dans l'after. C'est-à-dire que pour avoir des résultats, le meilleur chemin, ça reste quand même d'avoir un plan, d'avoir un projet collectif qui te permet justement, sur le moyen ou long terme, à atteindre ces résultats. Et donc, moi, quand je vois jouer Lille, ça repart de derrière. Je me rappelle ce match que j'avais vu Clermont-Lille, où j'ai vu Lille peut-être 5 fois partir de chevalier pour se créer une occasion de but. C'était complètement dingue de voir ça quand même en Ligue 1, sur plusieurs actions répétées face à une équipe de Clermont qui est quand même un bon élève, même s'ils ont peu de moyens. Donc voilà, cette équipe de Lille, elle procure du beau jeu, elle procure du plaisir, elle fait du beau jeu. Comme il le dit encore une fois dans l'interview, elle fait du spectacle. Et j'ai pas compris encore une fois comment les supporters lillois ont pu siffler même après deux mauvais résultats, après trois sorties.
Ça apparemment, parce que j'ai tweeté dessus après le Rennes-Lille, il y a eu une grosse incompréhension entre les supporters et Fonseca, et apparemment ils sifflaient pas du tout Fonseca.
Non, c'était pas Fonseca. Ouais, ils sifflaient quand même le jeu de l'équipe.
Non, ils sifflaient parce que Chevalier avait fait une erreur ou deux, et en gros ils avaient.
Justement, tu siffles le Chevalier. Tu veux repartir de derrière. Tu siffles le projet.
Oui, mais à aucun moment ils sifflaient Fonseca volontairement.
C'était maladroit, mais en tout cas, voilà, moi je veux plus d'entraîneurs comme Fonseca, même si on en a déjà beaucoup dans notre Ligue 1, et de plus en plus, parce que voilà, c'est des gens qui sont déjà capables de te parler de football, de t'expliquer leurs projets, et surtout de procurer des émotions quand tu regardes un match, même si t'es pas du tout supporter de l'un ou l'autre des équipes.
Réaction ?
Non, mais on peut aller que dans le sens de Kevin. Non,
mais ça vous ferait plaisir, foncièrement, que Lille gagne un trophée cette saison.
Bien évident. Trophée,
de France,
trophée ou pas de trophée. Moi, je pense que déjà, le LOSC est récompensé de leur travail au quotidien depuis le début de saison, parce que beaucoup de gens en parlent en bien. Que l'année dernière, le LOSC a fait un huitième de finale de Ligue des Champions avec Gourvennec, mais vraiment devant les matchs, on n'était vraiment pas passionnés, on trouvait pas qu'il y avait un projet de jeu sur le long terme. Mais moi, j'ai vraiment l'impression et l'intime conviction. Après, il faudra voir comment ça se passe avec les temps, parce qu'on a encore vu qu'il y avait eu des infos.
Il en a parlé aujourd'hui. Justement, voilà, il y a eu une petite tension. Les temps, le patron du LOSC, Fonseca, il a dit que tout était clarifié.
Oui, d'accord.
Je trouve pas ça très grave qu'il y ait une tension une fois, parce qu'il y a une frustration, parce qu'il n'y a pas les résultats.
Attends, ça dépend quelle tension aussi. Non, mais d'accord, sur un fonctionnement avec Olivier Létang qui est un peu omnipotent.
Parce que là, c'était impressionnant apparemment. Et devant pas mal de monde.
Il est quand même connu, on en avait entendu parler au Shakhtar, à la Roma, pour.
Et Létang aussi, on en a parlé aussi à Rennes également, notamment.
Pour être commode et savoir
pouvoir
aller au clash avec sa direction. Mais moi, juste pour. Pour rebondir, parce que je t'ai fait couper
la parole il y a deux minutes.
Non mais très rapidement, pour dire que justement, moi je l'ai découvert à travers les équipes qu'il avait entraînées un petit peu avant, et c'était quand même très très chaotique, c'est un peu anarchique, ça penchait beaucoup vers l'avant. Je pense que le propre de ces équipes, c'est que pour moi ça prend quand même toujours un tout petit peu trop de buts. Mais j'avoue que je suis comme mes confrères dans ce studio, charmé par ce qu'il a mis en place en assez peu de temps, parce que ça commençait pas terrible en début de saison. Il y avait déjà des mauvaises langues pour dire que c'était le mauvais choix. Et on va pas revenir dessus, mais tous les changements de poste des joueurs et l'utilisation de chaque joueur, aller chercher les qualités de chacun pour les mettre au service du résultat. Moi, je trouve ça formidable. J'aime beaucoup cette équipe aussi.
Et donc, oui, et pour poursuivre, Nico, c'est que sur le côté récompense, moi, je pense que le fait d'en parler constamment, que beaucoup de suiveurs de la Ligue 1 regardent énormément de matchs de Lille, c'est déjà une récompense pour le projet de jeu de Fonseca. On n'en attendait pas énormément en début de saison. On savait pas où est-ce qu'étaient les objectifs de Lille dans le top 5. On les mettait pas dans le top 5, aux alentours du top 5 peut-être. Mais on attendait de voir par rapport au recrutement et par rapport à son arrivée. Et je suis persuadé que si tu donnes à Fonseca 2-3 ans à Lille avec une équipe compétente autour de lui pour cibler les bons profil en mêlant jeunesse et expérience, cette équipe sera capable de jouer le podium, parce qu'elle aura la maturité, elle aura l'expérience. Et le meilleur exemple, c'est Lenny Yoro qui a fait une grosse erreur en début de match qui coûte l'ouverture du score de Rennes. Tu parlais tout à l'heure des scènes de joie après les buts, les scènes aussi qui ont amené beaucoup d'empathie avec Lenny Yoro. Moi, ça m'a sauté aux yeux, et Fonseca en a parlé notamment, sont des choses qu'il assume et il veut de la personnalité pour ces joueurs-là. Et erreur ou pas erreur, même si tu es jeune, tu vas apprendre. Et j'en parlais avec Will Steele après le match contre Lorient, notamment.
Qu'est-ce que ça fait classe quand il dit ça, quand même.
Non, mais, bien sûr, non, mais c'est une réalité, mais ça raconte pas. Hein.
Non, mais c'est après Lorient, où ce match contre Lorient, Reims fait deux erreurs coup sur coup sur la première mi-temps. Et notamment le milieu de terrain Lopi qui fait une grosse erreur de relance. Et ça coûte cher à Reims, ça fait 2-0 à la mi-temps. Et je lui posais la question, et il me disait, Walid, en fait, moi, je vais jamais reprocher à mes joueurs de faire des erreurs, ce type d'erreurs-là. Parce que moi, je fais des erreurs à tous les matchs, le staff fait des erreurs à tous les matchs qui peuvent conduire à un mauvais résultat à l'équipe. Et pourquoi je vais cibler un joueur alors que c'est le projet de jeu que je demande à l'entraînement. Et j'ai l'impression qu'avec Fonseca, c'est exactement la même chose.
Et c'est le cas avec Digard également.
Et le Lenny Yoro, là, en est le symbole parce que derrière, ça fait 3-1 et cette équipe-là repart à l'assaut de Rennes pour aller gagner cette rencontre. Donc moi, pour moi,
c'est intéressant. C'est une philosophie de plus en plus répandue en Ligue 1. On l'a déjà parlé. Il y a beaucoup de coachs, de Franck Haise à Didier, ce qu'il a dit à ses joueurs quand il a pris en main l'équipe à Fonseca. Les gars, essayez, prenez des risques. Si vous plantez, on prendra pour nous, on prendra sur nous les erreurs. C'est quand même, on le dit pas assez, mais c'est une sorte de révolution dans l'approche du foot en Ligue 1.
C'est Régis Lebris qui nous disait dans l'after.
Pareil, Régis Lebris.
Il est passé il y a quelques mois maintenant avec nous et j'avais noté cette phrase parce qu'elle sera dans mon projet que je vais présenter pour le DES. Il disait que l'erreur était constitutive de son projet de jeu. C'est-à-dire que à partir du moment où ces joueurs faisaient des erreurs, c'est aussi comme ça qu'il allait leur permettre derrière de rectifier et de progresser. Donc c'est quelque chose qui est forcément important, surtout quand tu as des jeunes joueurs dans ton effectif.
C'est la minute Thibaut Leplat, mais c'est comme Roberto De Zerbi qui disait c'est en ne prenant pas de risque que tu prends un risque.
Tout à fait. Messieurs, dans un instant, nous allons évoquer le Stade Rennais. On en parlait à l'instant. Montpellier, au programme également, puisque Montpellier, la direction de Montpellier a décidé de mettre à pied son entraîneur. 4 mois après l'avoir propulsé sur le banc, Romain Pitot. Julien Landry sera avec nous pour nous parler. Montpellier est en grande difficulté en ce début 2023. Restez avec nous, ces générations. After sur RMC, la Juve mène 2-0 sur la pelouse de la Salernitana. Vlahovic sur penalty et Kostic à la 45e minute de jeu, toujours 2-1 dans le demi-finale du Mondial des clubs pour Al Hilal face à Flamengo après 64 minutes de jeu. À tout de suite.
Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là ?
Écoute, je swipe sur l'appli Betsson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betsson. Télécharge l'appli Betsson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.